Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être en notre compagnie en ce lundi début de semaine dans Radio Foot International sur RFI. Et pour commencer, la victoire d'une courte tête pour les Gones dans le derby très disputé face aux Verts. Une victoire arrachée dans le chaudron de Geoffroy Guichard qui permet à Lyon de se hisser sur le podium et qui confirme que l'OL est au rendez-vous des grands matchs de bon augure, peut-être à un mois de recevoir le Barça. Monaco désespéré et désespérant, sa défaite face à Strasbourg, l'humiliation subie à domicile a mis en colère Thierry Henry, l'entraîneur auréolé de son étoile de champion du monde, buteur aussi d'Arsenal. Est-il l'homme de la situation désespérée de son équipe ? Autre grosse colère, celle de l'entraîneur des Blues, défait en première ligue par les Gunners, déterminé, a reconnu Maurizio Sarri. Chelsea a perdu l'occasion de rester au contact du trio de tête car Liverpool, City et Tottenham continuent de gagner. Enfin, les Bleus, plus fortes que les Américaines en match amical préparant la Coupe du Monde. Les joueuses de l'équipe de France ont battu les tenantes du titre. Est-ce un bon signe? En tout cas, c'est encourageant. Et nous allons parler de tous ces thèmes avec Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Naïm Moniol à vos côtés d'Eurosport. Bonjour
salut
Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Salim Baumgali, notre camarade de RMC Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Éric Chorin, bonjour.
Bonjour Annie.
Ça va ? Éric arrive du Havre, hein, où il est allé voir les Bleus justement. Il va tout nous dire. Un bonjour à monsieur Sanogo de Radio Côte d'Ivoire. Voir à Abidjan, qui apparemment nous apprécie beaucoup, il l'a dit sur le répondeur de Radio Foot. Radio Foot, c'est parti.
C'est très très fort et tout ce qu'on vit là, ça compense largement les difficultés.
Je pense qu'en France, il n'y a pas mieux comme match.
Ah, il est parti, Gabriel Silva, le centre et la tête.
On a eu deux ou trois situations où on se demande encore comment on n'a pas marqué.
Anthony a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment.
Gasly.
Oh bien joué.
Gasly le 2. Et il a poursuivi Gasly et Anthony Lopez. En deux temps sa pose et réussite parade exceptionnelle. Exceptionnelle parade d'Anthony Lopez face à Robin Aboubar.
C'était un moment important, en plus on marque 2 ou 3 minutes derrière sur le pénalty, donc ouais, c'était un arrêt décisif.
Bété qui va centrer au deuxième poteau, Dembélé, la frappe de Depay, elle est contrée, c'est maintenant Tanguy Dembélé qui tente sa chance. On réclame une main et Monsieur Vassial l'a vu, cette main, il accorde le pénalty.
J'ai senti que j'avais touché de la main, après je sais pas si ma main est décollée, ça va tellement vite, forcément que c'est pas une main volontaire, mais bon, des mains volontaires, il y en a très rarement. Voilà, je sais pas, j'ai pas revu les images.
Fekir Ruffier, 65e minute.
Ouais,
imparable, et David Fekir qui remet Lyon à la hauteur de Saint-Etienne.
Ce qui est important, c'est pas le coaching, c'est l'état d'esprit des joueurs qui sont rentrés.
Le scénario catastrophe sur un dernier ballon devant le but.
Léo Dubois qui va chercher une deuxième fois Dembélé. Elle est plus dure, et cette fois elle est devant. Moussa Dembélé. Au bout du bout du bout du bout. À la 95e minute. Qui vient arracher la victoire pour les Lyonnais dans ce derby. Moussa Dembélé, c'est le nom du héros du soir. 2-1 pour Lyon.
On n'a pas le droit de le perdre comme ça à la fin. Prendre 0 points, c'est cruel. Ouais. Voilà, on a été naïfs. Ouais. Forcément qu'on est frustré à 10 secondes de la fin. Heureusement qu'on est frustré. Ouais.
Merci aussi à Saint-Etienne d'avoir su rivaliser avec un très bon Olympique.
Je savais que ce métier était cruel, mais là aujourd'hui, vraiment, c'est un petit chaos.
Ce résumé grâce aux commentaires de Canal+, et aussi aux voix de Genesio, Léo Dubois, de Gasset, de Perrin, d'Olas aussi. Alors les Verts sont renversés du podium, retirés du podium par leurs frères ennemis lyonnais dans leur chaudron et au terme d'un match qui aurait pu aussi basculer de leur côté. Invaincu à Geoffroy Guichard depuis 11 matchs et depuis le 6 mai dernier surtout, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont enregistré leur première défaite de la saison à la maison, après avoir en plus mené au score. Et ils ont donc perdu ce 118e derby à la 95e minute. L'Olympique lyonnais était-il plus fort, Marc Libra?
Je pense que sur l'ensemble de la rencontre, ils ont été plus constants du début jusqu'à la fin. Même quand ils ont été malmenés, ils ont su faire la différence par leur taulier, leur gardien de but, qui aujourd'hui est une référence. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui en Ligue 1, il faut un très bon gardien de but. On a plus de, si on n'a pas un gardien de but, Salim pourra en témoigner par rapport à United, depuis les meilleures saisons, c'est De Gea, le meilleur gardien, qui les tient toujours à flot. Et encore actuellement, il les tient à flot, même si un Pogba de feu. C'était la petite parenthèse. Cette équipe lyonnaise est pleine de ressources, puisqu'elle démarre avec une équipe avec Memphis qui est d'un côté, Traoré de l'autre. Ça ne fonctionne pas forcément au cornet, ça ne fonctionne pas. Et on voit que les entrants, les mecs qui veulent rentrer, pour moi, Dembélé est un joueur très important parce que c'est un vrai neuf. Ils ont joué sans neuf. Alors ça marche des fois, mais là, ils en ont vraiment besoin. Et on a vu l'importance d'un vrai neuf à ce niveau-là. En tout cas, bravo aux deux entrants qui ont été dans l'état d'esprit, de la mentalité, parce que un derby, vous voulez le jouer, vous voulez être sur le terrain et vous voulez pas rentrer que 5 ou 10 minutes. Et là, les mecs sont rentrés 10 à 15 minutes et ils ont été concernés du début jusqu'à la fin. Mais je pense que les Lyonnais, sur l'ensemble de leur rencontre, ont été beaucoup plus constants.
Vous trouvez aussi que les Lyonnais étaient plus forts,
Disons qu'ils ont gagné les détails, c'est-à-dire être concentrés pendant 95 minutes, ce que n'a pas fait Saint-Etienne. Et puis Marc l'a dit, ils ont gagné et la bataille des gardiens et la bataille des bandes touches. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai vu un seul leader, c'était Lopez. Alors, on peut être déçu de Fekir, même s'il marque un pénalty, on peut être déçu de Depay. Mais au final, collectivement, cette équipe, dans la difficulté, et à partir du moment où elle se met à jouer ensemble, elle est capable de grandes choses. Elle a battu Saint-Etienne alors qu'elle avait été très moyenne face à Toulouse en milieu de semaine. Donc voilà, bien joué de la part de Lyon. Maintenant, le plus dur pour Lyon, c'est d'enchaîner. On en parlait avec Marc avant l'émission. On a dit, tiens, c'était un match référence à Manchester City. Ça y est, c'est lancé. Puis on a vu derrière, pas du tout. Donc, gagner
un
derby.
C'est semé de petits matchs référence cette saison.
C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est très sporadique. Donc, gagner un derby à Geoffroy Guichard, c'est une bonne chose. Maintenant, faut enchaîner.
Salim.
C'est pour ça que je pourrais presque compléter les propos de nos deux camarades en disant qu'il y a aussi deux autres personnes. C'est Dubois qui entre également en jeu, qui a été vraiment remarquable dans son entrée en jeu. Et puis au final, Genesio, c'est lui aussi qui fait ces choix-là. Alors, vous allez me dire, choix pas forcément réussi au début, ce fameux faux neuf. Au final, c'est lui qui décide de cela aussi. Mais après, il se rend compte qu'il faut changer des choses et il le fait de manière impeccable avec cette victoire.
Il l'a fait contre Toulouse en milieu de semaine et sans le banc de touche. Exactement. Et contre Manchester City qui reste le match référence. Il arrive avec une compo improbable avec Cornet, Diop et compagnie. Il gagne le match.
Donc au final, il a un totem d'immunité pour deux jours en fait. Hein, parce que c'est à chaque fois remis en jeu avec lui dès la rencontre suivante.
Mais Salim, justement, souvent il est critiqué, Bruno Genesio. Dans les rangs même des supporters, on le sait, les Lyonnais qui finalement ne se satisfont pas véritablement de cette entraîneur et qui aimerait en avoir un plus capé ou plus rond, au nom plus ronflant. Et pourtant, depuis, je pense, ce match à City, c'est quand même un entraîneur qui nous étonne. Alors, peut-être que son grand défaut, nous on en parlait en préparant l'émission, c'est de ne pas savoir motiver ses troupes sur tous les matchs, et on le voit bien, mais en même temps, au niveau de son rôle qui est le rôle du coaching, on voit qu'il s'en sort très bien.
Oui, dans le coaching, oui, dans ses choix, en tout cas, en
et ses corrections,
de rencontre, oui.
Et c'est tout ses ce corrections, qu'il fait,
effectivement.
Ouais. Mais non, mais il avait mis Cornet, on se souvient, titulaire à Manchester City,
et ça avait été quelque chose de très bon. Donné, bien sûr. Le problème, c'est que, et c'est là où il y a cette, et Marc sera encore plus à même d'y répondre, mais c'est cette relation qui est bizarre entre joueur et entraîneur. Quand vous avez des résultats qui ne suivent pas, on a vu des contre-performances hallucinantes cette saison de la part de l'OL, notamment en Ligue 1, on pointe toujours du doigt Bruno Genesio. Oui, mais si Cornet fait un mauvais match, c'est la faute de Genesio. Si Depay ne marque plus depuis 10 rencontres, c'est la faute de Genesio. Ouais, enfin, Depay avant ça, il a marqué X nombre de buts. Là, on n'a pas dit c'est grâce à Genesio. Non, on a dit c'est Depay. Donc c'est malheureusement, Genesio aujourd'hui, notamment vous évoquez les supporters lyonnais, ils tombent sur l'entraîneur quoi qu'il arrive, parce qu'ils veulent un nom plus ronflant, un nom plus intéressant entre guillemets sur le papier. Ouais, ils ne veulent plus Genesio. Donc quoi qu'il arrive, Genesio sera le responsable. Il ne sera jamais celui grâce à qui l'OL gagne.
Ce qui est toujours très bizarre, parce que quel entraîneur de renom l'OL a eu dans son histoire ? Absolument aucun. Gérard Houllier, Paul Le Guen, Claude Puel, Perrin, ça ne rentre pas en ligne de compte.
Je veux dire,
s'ils avaient eu successivement Mourinho, Guardiola, Ancelotti et compagnie qu'on passe à Genesio, je comprendrais. Mais il était où le grand entraîneur lyonnais sur les dernières années ? Il n'y en a pas eu. Ce que fait Genesio, ce qu'il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, ce que fait Genesio dans la Ligue 1 actuelle avec un PSG qui est 10 étages plus haut, beaucoup plus riche, beaucoup plus fort, et arriver successivement à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions, pour la Coupe d'Europe en général, on lui retire
et lui faire gagner les derbies.
Bien sûr,
parce que
lui faire gagner les derbies. On lui retire ses meilleurs joueurs. Faut qu'il reconstruise avec des jeunes. Mais chaque année, il arrive. Donc voilà, il a un déficit d'image médiatique. Alors peut-être parce qu'il est français, qu'on aime bien les entraîneurs étrangers. Peut-être parce qu'il a jamais entraîné d'autres grands clubs. Je trouve ça injuste.
C'est même pas le déficit. Le déficit d'image auprès de la presse ou pas. Je pense que Genesio est un très bon coach au niveau de la formation, au niveau du jeune joueur qui va aider à grandir. Quand on a le cas de Memphis, comme Fekir qui aujourd'hui qui prend beaucoup de place, je pense que c'est plus difficile pour lui de s'imposer. Je le connais un tout petit peu, c'est quelqu'un de foncièrement très gentil. Et je pense que quand on donne sa confiance, on l'a vu par moment, les joueurs de Lyon sont capables face à Manchester City de faire 5-6 kilomètres de plus que ce qu'ils venaient de faire 3 jours avant, et qu'on nous le dise pas, parce qu'avant le match on nous disait, avant le match de City, mais ils vont se faire tuer, mais ils vont forcer, mais c'est trop dur. Donc à l'arrivée, ces joueurs-là ont envie de jouer, ils ont envie de jouer, mais par rapport à leur coach, je pense qu'ils ne respectent pas forcément ce coach-là, parce qu'il n'y a pas, c'est pas Zidane, c'est pas, il n'a pas de grand titre, et c'est ça qui le,
oui, mais moi,
pas qui le décrédibilise, parce que moi je pense que c'est un très bon coach, et l'OL il doit énormément, et personne ne le sait aujourd'hui, ils s'en rendent même pas compte, parce qu'aujourd'hui, prendre l'équipe de Lyon avec un président Aulas qui est omniprésent, qui dit, oh mais moi je suis tranquille, je fais rien, mais il est omniprésent, c'est très compliqué.
Oui, Marc, moi je suis pas d'accord avec ça. On dit oui, là, comment il se l'a pas le respect parce que machin. L'année dernière, quand même, fils des pailles, il mettait pas un pied devant l'autre. Il l'a mis sur le banc et pourtant c'était la star de l'équipe, il coûtait cher. Mais non, il était pas obligé de le faire, il aurait pu ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il a fait avec Nabil Fekir? Bah quand Fekir il est pas bon, il le met sur le banc. Moi je trouve que pour un mec qui soi-disant n'a pas d'envergure, ne prend pas de responsabilité, n'existe pas face aux grands joueurs, moi je trouve qu'il a pris des positions cette année justement dans la gestion de l'effectif que d'autres n'auraient pas fait.
Et les faire évoluer, je pense.
Juste Marc, vous venez de le dire, il est très gentil, vous le connaissez, il est extrêmement gentil. Alors déjà je veux dire, gentil c'est pas un métier, malheureusement, notamment dans ce milieu-là du foot. Mais justement,
notamment à ce poste-là.
Non mais pardon Marc, mais
c'est important,
mais
hein.
D'être gentil. Est-ce que quand on est trop gentil, le joueur vous respecte?
Mais c'est peut-être ça le problème aussi. Moi, j'ai connu des coachs comme Alain Giresse qui sont... j'adore Alain Giresse, mais il était très gentil. Des joueurs en ont profité pour, dès qu'ils ont pu le flinguer, ils l'ont flingué. Non, mais ça, c'est toujours à double tranchant. On le voit sur ce genre de rencontres où ils sont capables de se donner. Et puis, certains matchs où face à Toulouse, si Fekir ne rentre pas en seconde période pour faire la différence, ils perdent lamentablement à Toulouse. Donc, c'est ça qui me dit, c'est un petit peu dommage.
Bon point pour Genesio. Arrêtons-nous aussi sur ce Moussa Dembélé. Vous parliez du geste. Racontez-nous ce geste, Marc, c'est vrai qu'il met un but de la tête. Alors, quelques secondes avant, il rate une opportunité, et les Stéphanois aussi, enfin c'est la fin du match et ça va de but en but, et là tout d'un coup Moussa Dembélé ajuste parfaitement sa tête.
C'est en plus il faut remettre le contexte, donc il démarre pas le match, c'est les matchs quand on signe, lui est habitué au Celtic Rangers, faut bien se rappeler que ces matchs-là il les connaît, c'est derby, c'est beaucoup plus chaud que ce match-là, donc même si Pagaille a posé la question, c'est chaud, enfin ce qu'il a vécu Celtic Rangers dans la ville. Ben c'est dingue.
Vous savez ce que c'est, vous qui avez joué en Écosse.
Mais ce qui est important, c'est que il sort d'un échec quelques minutes avant, où une tête très facile, où il se sent absolument seul, il pense même être hors jeu. Elle est tellement facile qu'il peut la mettre, il la pique pas, il la met au-dessus.
Il l'envoie chez les
Et
supporters.
Par contre, le centre de Dubois, qui est un centre qui fait à peu près 35 ou 40 mètres en courbe, il est capable de monter, il tourne son bassin, et il va ajuster la tête.
C'est et en plus, il est entre deux défenseurs. Il aurait pu dire, je vais pas l'avoir.
Il est même pas seul. Il est entre deux défenseurs, il se glisse entre les deux, il monte et il décroît sa tête. Pour l'instant, c'est un des plus beaux buts de la Ligue 1. C'est-à-dire que dans la gestuelle, le centre qui est capable, comme le premier but d'Amouma, qui est simplement extraordinaire, ce ballon enroulé, cette tête qui est déposée à la façon de Sanson. C'est juste, on monte, on a jugé la position du gardien de but. Et là, bon, on lui met à l'opposé, mais en tout cas, Dembélé, le but qu'il met,
c'est Marc, il a mis des dizaines comme ça.
J'ai pas des dizaines, j'en ai mis un peu quand même.
En tout cas, Salim, ce joueur qui vient du Celtic justement, qui a déjà marqué 6 buts à son actif, alors qu'il joue très peu, qui est pas titulaire encore dans cette équipe, est-ce que c'est à son crédit? Hier, on a vu quand même malheureusement un Bertrand Traoré très transparent.
Ouais, mais au final, ça fait partie aussi de ces joueurs très irréguliers. Bertrand Traoré par séquence, on va l'encenser à juste titre.
C'est l'ensemble
parce
du groupe, effectivement.
Parfois, effectivement, il va être très très bon. Hier, Maxwell Cornet, par séquence, il était intéressant. À d'autres beaucoup moins. Maxwell Cornet, vous l'avez évoqué, le match face à City et les deux matchs où il avait été brillantissime. Moussa Dembélé aussi, tout au long de cette saison, il est aussi passé à côté de certaines rencontres face à Donetsk, si ma mémoire est bonne, où il est moins bon, pas bon même d'ailleurs. Après, c'est, malheureusement, Dembélé est au final toute cette ligne d'attaque, même de paille, ça fait 10 matchs qu'il n'y a pas marqué.
Oui, mais t'as raison.
C'est très irrégulier.
T'as raison de souligner le fait que les attaquants ne marquent pas et que Dembélé empathie aussi de ça, c'est que. Quand t'es attaquant, t'as la conclusion du truc, t'es au bout de la chaîne. Si ton équipe, sur les 80 mètres d'avant, ils font pas le job, comme souvent tu vois le milieu de terrain, comme souvent tu vois les latéraux qui font descendre, parce que ça aussi, on parle de Dubois, en fait, il a réussi un centre. Mais c'est un de plus que Kenny Tété, en fait. C'est ça le truc, c'est que ces mecs-là, on les juge sur leurs statistiques. Dembélé, alors peut-être qu'il a pas l'intégration qu'on pensait, mais là le ratio but temps de jeu le plus important de Ligue 1 quasiment, parce que en fait quand il joue peu, mais quand il joue il marque. Et puis comme Depay, comme Traoré, comme tous ces mecs là, ils sont aussi tributeurs de ce qui se passe plus loin sur le terrain. Et si le ballon est pas amené dans de bonnes conditions, si les mecs de Lyon jouent pas ensemble, si le milieu est pas souverain comme ça a été souvent le cas avec Lyon cette saison, ils peuvent pas marquer.
Alors Dembélé, ben on le regardera à la loupe ces prochaines semaines. Mais moi je voulais qu'on tire quand même un coup de chapeau, et on a commencé à le faire, mais aux deux gardiens et pas seulement à Anthony Lopez, parce que il y a notamment ce lob sur un tir de Depay, ce lob que Ruffier réussit à mettre en dehors de la cage, et c'est vrai que tous les deux ont fait des prestations. Alors, évidemment, il y en a un qui prend un but à la fin, l'autre non, il l'a sauvé, mais c'est vrai qu'on a là, certains commentaires hier disaient les deux meilleurs gardiens de Ligue 1, vous êtes d'accord?
Mais le truc c'est que Ruffier, on le sait depuis des années, oui, hein, qu'il est quand même au-dessus, on le rappelle, s'il n'est pas en équipe de France, c'est plus par choix personnel, il ne voulait
pas être le numéro 3
de cette équipe de France, mais Ruffier, ça fait des années au final qu'il est bon, très bon, excellent. Quelques matchs où il passe à côté, ça paraît comme tous les joueurs, j'ai envie de dire, mais globalement, il est toujours là. Et puis Anthony Lopez, Naïm insistait beaucoup là-dessus, et c'est vrai, dans les très grands matchs, il est toujours là. Au final, Lopez, il multiplie les parades de manière très régulière. Les bourdes, il en fait très très peu. Malheureusement, Lopez, je trouve qu'on en parle parfois un peu trop, soit pour ses sorties verbales, les joutes verbales, parfois même les discussions ou autre chose qu'il peut avoir avec d'autres joueurs. Malheureusement, on n'en parle pas assez parfois pour
sa
qualité
absolue.
C'est le
seul leader de l'équipe. Ouais, c'est le seul leader de l'équipe.
Il n'est pas capitaine, mais par contre...
Il n'est pas capitaine, il n'a pas le brassard, mais dans les faits, c'est le seul leader de l'équipe et ça se voit dans les grands matchs et même dans les grands matchs perdus de Lyon. C'est le seul qui est au niveau. Ça, c'est un plus gros caractère que Fekir, et depuis le départ des Gonalons, des Tolisso, des Umtiti, c'est lui le dernier vrai Lyonnais, le dernier. Il est portugais, alors il est champion d'Europe, il gagne l'Euro.
International portugais.
Voilà,
oui.
Depuis les équipes de jeunes, mais s'il est français, il est en équipe de France depuis 5 ou 6 ans, il est monstrueux, Lopez. Alors on va pas évidemment le mettre en comparaison avec Gigi Buffon sur l'ensemble de sa carrière, mais sur la saison 2018-2019, c'est clairement le meilleur gardien de Ligue 1.
C'est plutôt ça. Oui. Marc, vous confirmez vous aussi?
Oui, après, c'est ce qui me dérange
le plus.
Ils
ont deux fortes personnalités, et c'est peut-être ça aussi, les gardiens souvent. Ruffier
a du caractère, il est c'est des joueurs que j'aime beaucoup et qui malheureusement ne plaisent pas à certains entraîneurs ou instances du football, hein. Donc malheureusement, il sera toujours cantonné à ce rôle où il va pas en équipe de France parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, quand le Mandanda est un petit peu dépassé, il a fait son temps, c'est compliqué. Alors Lloris, ça va un peu mieux, mais bon, on se pose des questions. Lopez, la seule chose qui me dérange, c'est que ses joutes verbales, ses sorties des fois
il est un peu trop très
c'est pas joli. Non, mais c'est pas joli parce que le talent est là. Il a un talent immensissime. Et de dire que c'est le patron, un patron doit être irréprochable. Un patron, c'est le gars qui va taper du poing sur la table et qui est pas capable après de faire des sorties qui ne servent à rien pour mettre juste le feu. Il y a encore une fois, il y a une ou deux sorties où il a pas besoin de ça. Il est talentueux. Alors je pensais qu'avec
quand
le temps.
Quand c'est Ramos qui met les tampons au Real Madrid, on dit c'est le patron. Attention, Lopez, il fait pareil, mais c'est le seul vrai patron de Lyon.
C'est différent.
Différent. Pour moi, c'est pas différent. C'est le seul vrai patron. Si ça passe par mettre des taquets,
Vous voyez comme quoi, quand on parle d'Anthony Lopez, on parle évidemment du sportif, donc de tous les arrêts qu'il peut faire. Et on parle d'autre chose. Ouais. Comme quoi, malheureusement, c'est ce qui est terrible. On oublie à 100% toute sa qualité. On parle de ce qu'il y a à côté.
Par rapport à Bébert Green, c'est quand même meilleur.
Robert Green, Bébert, non, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Petite pensée pour mes amis de Norwich City. Ils vont bien, ils se battent avec
Robert Green, on l'a connu à West Ham pendant des années.
Je l'ai eu avant.
C'est vrai.
M'en suis occupé pendant un an, c'était.
Ouais, tu t'en es bien occupé. Hein.
Boulette en sauce et tout ce que tu veux. Le beurre, l'huile.
Tu l'envoies après ailleurs, enfin, tu le gardes en fait.
Il y avait tout. Non, mais il y avait tout. C'est Bébert Green.
Bon, alors là, c'était plutôt pour dire du bien de ces deux gardiens et donc de cet Olympique lyonnais qui jouera dans une trentaine de jours, c'est à peu près ça le décompte, ça sera le 19 février prochain, ils recevront le FC Barcelone à domicile et là ça sera autre chose, mais on peut attendre de cette équipe tout et notamment un grand match. Toujours en Ligue 1, il y avait eu samedi cette nouvelle déconvenue, on va dire ça, des Monégasques. C'était une déroute aussi au stade Louis II, écrasé 5-1 par Strasbourg. Monaco certes réduit à 10, mais une équipe que l'on croit renforcé en ce mercato d'hiver avec des achats très importants. Alors, Eric Chorin, on a voulu un peu regarder les statistiques parce que cette équipe ne gagne pas à Louis II depuis le 12 mai 2018.
Depuis le dernier championnat, c'est assez saisissant finalement quand on regarde les matchs à domicile et par rapport aux matchs à l'extérieur. Ils ont des statistiques à peu près normales dans la moyenne du championnat sur les matchs à l'extérieur, pas forcément du haut de classement, mais alors à domicile effectivement 7 défaites et c'est la même chose que ce soit avant l'arrivée de Thierry Henry ou depuis son arrivée, puisque après 9 journées ils étaient 18e avec 6 points et à domicile il y avait 2 nuls et 3 défaites, et depuis qu'il est arrivé ils sont 19e avec 15 points, 4 nuls 7 défaites à Louis II, 0 victoire et puis 2 victoires simplement à l'extérieur, et encore voilà, c'était à Caen et à Amiens, donc c'est pas des victoires de prestige en tout cas pour la Ligue 1. Rien n'a changé finalement depuis son arrivée, malgré l'arrivée d'un certain nombre de joueurs, aucun déclic et une grosse dérouillée, alors que on est la 21e journée, le premier match en championnat c'était déjà à Strasbourg, c'était une défaite un peu plus honorable à l'époque pour la première de Thierry Henry, mais là c'est carrément une déroute, on sait pas trop où on va quoi.
Une déroute, en plus on avait quand même cru voir à Marseille une équipe qui venait de se renforcer au mercato et qui avait l'air d'être un peu meilleure et incomparable par rapport à celle qui prenait l'eau juste avant, et celle-là, eh bien écoutons après la déroute, la grosse colère de Thierry Henry.
Penalty sur Ronny Lopez à la 161e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. 2-1, effort surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le quatrième arbitre me dit, je suis vraiment désolé monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le pénalty. S'il y avait pénalty sur Attal, il y a pénalty 10 000 fois sur Ronny Lopez. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre.
Alors on a abrégé un peu la colère, mais il y a ce qu'il dit au micro et puis il y a aussi ce qu'il dit en dehors du micro. En tout cas, depuis qu'il est donc arrivé sur le Rocher, c'était le 17 octobre, on se souvient de sa conférence, de cette arrivée aussi, avec tout ce que représente Thierry Henry et ce qu'il a représenté pour Monaco. La question peut-être commence à vraiment se poser, même si il est peut-être pas sur un siège éjectable, mais Salim, est-ce que c'est l'homme de la situation ou plutôt est-ce que ce n'est pas l'homme de la situation de cette équipe désespérée?
C'est forcément la question qu'on se pose.
Première expérience, on le rappelle, comme entraîneur
comme
titulaire.
Voilà, exactement, puisqu'il avait déjà été adjoint notamment en Belgique. Mm-hmm. C'est que là, dans le sonore qu'on a écouté, c'est la première fois, au final, qu'on a tiré Henry depuis qu'il est à la tête de l'AS Monaco en colère comme ça, parce que d'habitude il a une colère froide, même après les matchs où il était là, enfin il arrivait à se contenir
et
quand
à
même.
Dire que ça irait un peu mieux après.
Exactement, mais là que ce soit en conf de presse ou même pendant le match, notamment lorsqu'il a insulté l'un des Strasbourgeois, on l'a rarement vu comme ça. Alors, est-ce qu'il est en train de se dire lui-même, dans quelle galère je suis tombé?
Alors, il s'est excusé en disant, je suis humain.
Oui, bon, heureux. Est-ce qu'il est en train de se dire, dans quelle galère je suis? Est-ce qu'il est en train de se dire, regardez les joueurs avec lesquels je suis, comment je vais réussir à faire ça? En plus, les joueurs cadres que j'ai achetés, que j'ai voulu, les Naldo, Fabregas, Naldo qui se fait exclure dès la 7e, Fabregas qui a été en dessous de tout, même ces joueurs-là sur lesquels il peut potentiellement s'appuyer, n'y arrive pas au final, alors qu'à Marseille, ils avaient été plutôt bons. C'est là où peut-être Henry est en train de se dire, je suis dans une galère.
Marc,
je pense que malheureusement, il n'a pas le niveau aujourd'hui. Parce qu'il a quand même des joueurs de qualité. Je prends l'exemple quand Annie, vous rappelez quand il est arrivé. C'est vrai qu'il nous expliquait le football droite à gauche, je repars de derrière, je relance. Mais ça, c'est le football qui est pratiqué par
utopique.
Guardiola, par peut-être des fois des équipes de renom.
Lui, son équipe arrivé, peut-être de
oui,
son Arsenal.
Équipe, ou, voilà, oui, c'était à une époque. Ou alors son quand équipe de Belgique, sur une Coupe du Monde, sur un tournoi. Mais donc il a fallu qu'il révise sa copie. Mais là aujourd'hui, je prends l'exemple de Marseille, où il a le match en main à Marseille, qu'on le veuille ou non. Pourquoi il sort Golovin et Balotouré? À partir de là, le jeu tout s'inverse. À partir de là, il a perdu son match.
Beaucoup demandé s'ils étaient blessés.
Pourquoi Balotouré? Pourquoi Golovin sort? Et Golovin, il lui fait du mal dans ce sens-là, puisqu'après, Golovin, il comprend pas pourquoi il sort, et boum, il vient de se péter, là, encore une fois. Il vient de se blesser. Il vient de se reblesser. Cette semaine, il n'a pas pu faire jouer ses recrues, donc on a vu le niveau de l'ASM. Mais aujourd'hui, il a des joueurs de talent, mais au Fabregas. C'est-à-dire que c'est quand même un joueur. Enfin,
ils sont venus pourquoi tous ces mecs-là, Marc?
Non, attention. On parle pas que d'argent. Il faut oublier l'argent. Faut se dire quand même.
Excuse-moi, mais je pense que quand tu vois le contexte de Monaco, tu peux pas ne pas exclure le fait que des mecs soient là juste en transit.
C'est un fait. On va pas le nier. Non, mais évidemment qu'il y va là-bas pour l'argent. Mais
Salim, il avait peut-être autant d'argent en restant où il était. Salim, tu le sais.
Non, mais pour le coup, lui, il voulait jouer un petit peu. En plus,
il en profitait. Mais il avait autant d'argent d'Angleterre qu'à Monaco.
Il en profite. Mais pour le coup, tu vois, il était Chelsea et faisait tout pour le pousser dehors. Donc il en profite un petit peu en jouant.
Naïm, est-ce que Henry n'a pas le niveau, ou est-ce depuis le début qu'il est là, on se dit il est presque trop analyste, trop encore dans son rôle qu'il a été et qu'il a été si bon en Angleterre de consultant plutôt que d'entraîneur?
Non, moi je différencie deux choses. Est-ce qu'il a la capacité, est-ce que c'est un bon entraîneur de base? Ça, pour moi, personne ne peut le dire cette saison. Est-ce qu'il a après la capacité à redresser Monaco dans le contexte? Je pense que non. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Je pense que les dirigeants monégasques se sont
question est, est-ce que c'est l'homme de la situation?
Ah, mais de cette situation-là, non, absolument pas, pas possible.
Mais il va rester jusqu'à la fin de la saison.
A priori, oui. Après, je suis pas dans... Le problème, c'est qu'à Monaco, qui commande, il y a le président est plus ou moins en cavale, le directeur sportif, là, on sait pas trop ce qu'il
le
veut.
Le prince en colère.
Voilà, le prince en colère, mais il a pas vraiment de pouvoir sur le club, enfin, pas dans l'exécutif, en tout cas. Donc...
Et on lui a quand même adjoint Franck Passy assez vite. Finalement.
Ouais, bien sûr, hein, mais donc, après, c'est une erreur de casting, Thierry Henry.
C'est un coach mental aussi.
Denis Troche
Oui, je sais plus.
Non, c'était à Marseille, pardon.
C'est une erreur de casting, parce que dans un contexte comme ça, où l'équipe est pas bonne, où les recrues arrivent, mais tu sais pas vraiment pourquoi, où t'as tout le monde à l'infirmerie, où tes dirigeants sont un peu éparpillés partout. Mais évidemment, alors est-ce que les dirigeants ont voulu surfer sur la vague France 98, Zidane qui gagne au Real, l'image des champs avec l'équipe de France, c'est une erreur de casting. En tirant un constat froid en disant c'est un mauvais entraîneur, moi quand il était adjoint des Belges où il avait le temps de travailler en projet.
C'est plutôt l'homme de la situation.
Les mecs ont dit que bien. C'est pas l'homme de la situation à Monaco.
Pas l'entraîneur, hein.
Mais je suis bien d'accord, mais sur la manière dont il a travaillé, ne serait-ce qu'avec les attaquants, on peut pas dire qu'il peut rien apporter à un groupe.
Oui, mais aujourd'hui, c'est l'adjoint des attaquants.
Moi je vais poser une question. Qui aujourd'hui commande à Monaco?
Ah, moi je pense que c'est quand même lui.
Rien que ça, rien que ça.
C'est quand même lui. Puisque c'est quand même lui qui a fait la demande d'avoir. Ah ben c'est quand même lui qui commande, parce que je vois pas qui peut commander à part lui.
Ben moi je pense.
Aujourd'hui tu me dis Marseille, je te dis Garcia, à Monaco c'est Henry.
Moi je pense très sincèrement qu'entre les joueurs qui sont là pour prendre un chèque avant d'aller ailleurs, ceux qui sont là qui sont pleins de bonne volonté, qui ont pas le niveau, les très jeunes, ceux qui ont le niveau mais qui sont toujours blessés.
C'est lui qui a fait venir récemment quand même compléter l'effectif.
Naldo et Fabregas, c'est lui. C'est vrai que c'est ses erreurs, mais la situation de Monaco aujourd'hui ne se résume pas à Naldo qui prend un carton rouge et à Fabregas.
En tout cas, ils sont toujours 19e et ça commence.
C'est vrai quand même quand on regarde l'effectif sur la pelouse, hein, les noms de ces joueurs, on dit que c'est quand même pas possible d'être à ce niveau. Mais bon.
Mais du coup, on les regarde pour ça, pour voir quand est-ce qu'il y aura le sursaut et ça sera contre Dijon le prochain match. On verra bien.
Compliqué.
Au cours du week-end, par contre, il s'est passé autre chose. Il y a eu un score fleuve.
Attendez.
On va s'arrêter là.
Quelle perte de la part.
L'éclatante victoire du Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Plam 9-0.
C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Ces Parisiens que l'on croyait brûlés par le soleil du Qatar.
Marseille. Le match, vous
avez... Non, attendez. Non, Marseille, on fera juste une petite parenthèse aujourd'hui.
Oh là là.
Alors que l'on croyait ayant pris trop de coups de soleil, plus expert aussi en course de chameau qu'en course peut-être derrière un ballon ces dernières heures. Eh bien non, ils ont infligé une mémorable défaite au dernier de la Ligue 1, ce 9-0. Certains supporters m'ont dit qu'ils attendaient même le 10e but dans les coffres du Parc des Princes. Bon, triplé de Mbappé, doublé de Neymar, Cavani aussi doublé, et puis un but de Thomas Meunier. Alors il y avait déjà eu un 9-0 du Paris Saint-Germain.
Angers
il
contre 3.
Le
titre, c'était pas
c'était
pour le titre.
C'était la journée.
Le 12 mars 2016.
C'était officiellement, ils avaient le titre, je crois.
Ah, oui,
c'était
pas de la 30e journée de cette saison-là. Les joueurs du Paris Saint-Germain, selon vous, Marc, quand on est joueur et que par la même équipe, on a été éliminé piteusement quelques jours avant, une dizaine de jours avant, par cette même équipe de la Coupe de la Ligue, est-ce que c'était plus une vengeance qu'un record?
Je pense ni vengeance ni record. Il y a des jours avec où
non mais c'est quand même pas banal.
Bah, je pense que s'ils peuvent mettre 12, 13 ou 14, croyez-moi, ni on les met. Hein. C'est juste que il y a des jours où tout réussit.
À 5,
tout,
on s'arrête pas en se disant c'est gagné.
Alors justement, j'avais fait le parallèle avec une époque où quand ils avaient joué face à la SM, rappelez-vous en début de saison, il y a 4-0 à la mi-temps, et je les avais trouvés en seconde période très gentils, ils avaient géré tranquillement, ils n'avaient pas été méchants en se disant, mais un peu, là par contre sans pitié, 3-0 à la mi-temps, d'habitude à 3 ou 4-0, on commence un petit peu à charrier, un petit peu à...
Et les stars qui sortent.
Et là à l'arrivée,
donc
on continue, la machine elle
la
redémarre.
Question.
Non mais, je
voulais quand même un peu... Hein,
je pense qu'ils faisaient meilleur, la reprise était un petit peu digérée, ils arrivaient du soleil, et puis finalement, on va se faire plaisir et on va jouer, puis on va marquer des buts. Avec un Cavani qui a toujours aussi faim, avec un Neymar, quand il est comme ça, quand il est capable d'être comme ça, ben, dès le premier but, on se dit, ah ouais, je pense qu'on va passer une mauvaise soirée, ça va être très compliqué. Rappelez-vous Cavani, quand il rentre face à Guingamp à la mi-temps, là, 46e, une tête, il a mis à côté, lamentablement, on se dit, là, ça va être dur pour Cavani, puis là, dès le départ, tout se goupille très bien.
Vous avez donc potentiellement cette l'attitude des joueurs parisiens et puis les Guingampais qui à la mi-temps, on les voit à l'image ouais. quand ils entrent sur la pelouse, ils se disent entre eux, bon attention les gars, la différence de but ça peut compter à la fin de la saison.
On prend pas une valise.
Il y a ce discours-là donc qui va être en gros très défensif de la part de Guingamp. On va rester derrière alors qu'il y a le PSG en face qui est en train de dérouler. C'est, tout a été fait en fait pour que le PSG puisse marquer beaucoup de buts. Bon, au final, il y en a eu 9, mais en fait, il aurait pu en avoir plus.
Ouais. C'était peut-être aussi Tuchel qui voulait un peu remettre ses troupes dans le bon sens, mais Naïm.
C'était alors vengeance vis-à-vis de Guingamp, non, parce qu'à aucun moment les gens ont pensé que Guingamp était meilleur que Paris, mais une manière de.
Puis d'habitude, c'est réservé à l'Olympique Lyonnais, ça.
Ouais, voilà.
Vengeance des Paris Saint-Germain. Non, c'est le seul club qui ait subi ça.
Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une manière aussi de dire on s'est pas endormi, on prend rien au-dessus de la jambe, regardez. Après, c'est quand même révélateur de deux choses, c'est que d'une part, ce championnat est d'une faiblesse incroyable, parce que même si Guingamp est dernier...
Oui, ou eux, d'une force incroyable.
Oui, Paris d'une... Mais en fait, ces matchs-là, Paris devrait peut-être pas toujours les gagner 9-0, mais devrait toujours mettre une série de volets au dernier, parce que ça paraît logique, il y a un tel écart d'effectifs, de budget, de moyens. Donc,
de tout.
Pour une fois qu'ils ont endossé réellement leur statut, je veux dire, quand le Barça, à une époque, mettait des 7-8-0 à tout le monde, ça choquait personne. Paris endosse pour une fois son statut, bon, on va pas se plaindre.
C'est peut-être celui-là qu'ils doivent garder pour les grosses échéances qui arrivent.
Marc, un petit mot alors, vous aviez envie de le dire. Ah. L'OM a enfin gagné la fin, la fin d'un cycle de 9 matchs sans victoire.
C'est pour ça que vous n'étiez plus venu.
C'est pour ça que je me cachais.
1-0 face à Caen. Oui. Est-ce que l'OM va rebondir sans Payet, blessé?
C'est peut-être la plus belle chose qui pourrait leur arriver, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que Dimitri Payet...
Il n'est pas là en ce moment.
Non, mais il est plutôt absent. On vient d'apprendre que c'est 3 semaines de repos pour lui. On voit Sanson qui, je pense que si c'est Payet, il n'aurait pas été à ce niveau-là aussi proche du but. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, Germain a fait un match pour certains très moyens, mais il fait beaucoup d'efforts pour les autres puisqu'il était au démarrage de ce décalage qui donne le centre pour le but de Sanson. Après, je pense que les joueurs n'ont pas forcément... tous lâchés, mais c'est très compliqué quand même, parce qu'il y avait quand même une équipe de Caen en face qui était très faible, et sans les erreurs, sans le jeune Crivelli qui a une ou deux occasions qui peut faire la différence sur des erreurs de Rolando, voilà, ils s'en sortent bien.
T'as le match de Saint-Etienne, hein, si Crivelli est meilleur, t'as le match de Saint-Etienne, c'est-à-dire tu as le ballon, tu domines, tu te crées des situations.
Mais Saint-Etienne, ils sont meilleurs, Marseille. Dans le jeu, je pense que Marseille est quand même un ton au-dessus. Et Saint-Étienne arrive à faire
Payet
la différence.
Pas, t'as vu.
Et Payet ne jouait pas. Donc,
D'ailleurs, les Marseillais ont reconnu qu'ils avaient peut-être pas gagné le meilleur match qu'ils aient disputé. Donc ça veut tout dire. Mais juste une chose, cet OM maintenant avec Lyon qui quand même les a un peu distancés au classement, ils ont plus le choix quoi. Bah, s'ils veulent faire quelque chose.
L'issue de la saison de Marseille passe par une place en Ligue des Champions. Éliminé des deux coupes, éliminé de la Coupe d'Europe. Évidemment, le titre on n'en parle jamais. Soit vous attrapez le podium miraculeusement. Vous sauvez les meubles, soit vous n'êtes pas en Ligue des Champions et vous faites une saison catastrophique. Donc il n'y a plus de choix. Il reste 17 matchs en deuxième partie de saison, 16 ou 17 matchs, c'est 17 finales à jouer et à gagner. Ce qui va être difficile parce que le problème de Marseille, ce n'est pas de gagner contre Caen ou contre Amiens. Le problème, c'est d'enchaîner face aux concurrents directs. Et face aux concurrents directs, ils ne les font pas. Il y a un match contre Lille qui arrive le week-end prochain. Ça sera déjà un test.
Je vais même dire, ça passera par Balotelli. Au final, s'il arrive bel et bien,
c'est pas
de numéro 9.
Pas toi, s'il te plaît.
Non, mais parce que quand il va signer que 4 mois.
Non, on l'appelle Nabil, mais
légalement.
Pas toi.
Légalement, il peut signer que 4 mois, enfin jusqu'à juin en l'occurrence. Et lui, il va bien s'éclater pendant 4 mois et ensuite partir ailleurs. Donc ça peut être le truc positif.
Le tremplin. On verra.
Peut-être, Naïm.
On verra.
J'essaie d'être positif pour l'OM.
On verra si... on verra s'il y va.
À West Ham.
Ah, je dis pas non.
Les Blues menacés de sortir du Big Four. La 4e défaite de la saison a fait mal à cette équipe qui ne voulait pas décrocher de la lutte pourtant pour le titre ou surtout évidemment pour le podium et ses places en Ligue des Champions, encore qu'en Angleterre on peut être aussi 4e. Mais face aux Gunners, les joueurs de Chelsea sont tombés, battus 2-0, provoquant une très grosse colère de l'entraîneur italien Maurizio Sarri.
Oh, today I prefer to speak Italian first of all. Because I want to send a message to my
Aujourd'hui, je veux parler en italien, car je veux transmettre un message clair à mes joueurs, sans faire d'erreur avec mon anglais.
Very clear. I don't want to make mistake with my English. Oggi abbiamo perso.
Nous avons perdu par manque de détermination. Cela ne me plaît pas. Il est très compliqué de motiver cette équipe. Nous devons travailler sur ce point. Ce groupe de joueurs, sur certains aspects, n'est pas assez féroce du point de vue mental.
et non per aspetti mentali. È un gruppo di giocatori probabilmente.
Si un joueur a peur de prendre des responsabilités ou d'exposer à son entraîneur les choses qui ne vont pas, des erreurs commises, il ne peut pas jouer. S'il n'est pas capable de réagir, il ne peut pas jouer à ce niveau.
Alors, c'est pareil, on n'a pas tout mis là, Salim, parce que
on
c'était
a mis
très
soft.
C'était un langage fleuri.
Oui, en plus, Maurizio Sarri préfère en parler italien pour envoyer un message à ses joueurs qui ne parlent peut-être pas tous italien d'ailleurs.
Oui, mais surtout pour que ce soit très clair, qu'il n'y ait pas de faute de grammaticale de voilà. sa part, effectivement. D'ailleurs, elle a commencé son propos en insultant clairement ses joueurs, en tout cas en insultant l'attitude de ses joueurs selon lui. C'est vrai que sur cette partie face à Arsenal, déjà il avait dit, et on l'avait vu face à Tottenham, on avait vu une équipe de Chelsea sans, là encore face à Arsenal, là encore face à un gros entre guillemets, mais c'est vrai que sur cette partie on a vu des joueurs qui étaient totalement absents. Alors il avait de nouveau tenté sa formule avec un faux neuf, en l'occurrence c'est Eden Hazard. Il n'y a eu que deux opportunités pour Chelsea dans toute cette rencontre, un poteau de Marcos Alonso, une frappe cadrée par ce même Alonso, si ma mémoire est bonne, à la 82e. Ouais. Sinon rien de la part de Chelsea, des joueurs qui sont passés totalement à côté de leur sujet, même Kanté qui d'habitude réussit, même là il est passé à côté. Enfin, on a vu une équipe de Chelsea totalement aux abois face à un Arsenal qui est quand même pas transcendant ces dernières semaines, qui a été largement battu, certes 1-0 par West Ham, mais ils étaient passés totalement à côté. Même Koscielny a été bon sur le week-end, même Sokratis a été bon. Bref, Arsenal a été bon, Chelsea a été mauvais. Ça a été une horreur de la part des Blues.
C'est un mauvais signe quand même pour cette équipe. On a l'impression que, parce qu'ils avaient une chance. Alors Maurizio Sarri était venu remplacer Conte et on a l'impression, je crois que les statistiques disent
c'est les mêmes. Après 23 journées, les deux ont 47 points. La saison dernière, c'était la saison des confitures de Conte et la première saison de Sarri qui est censée apporter une nouvelle chose, c'est le même nombre.
Alors Sarri, il a peut-être besoin de s'habituer
aussi.
Il y a eu un départ en fanfare de Chelsea qui gagnait des matchs. Alors que ça prenait des buts.
C'était un régal.
Ça prenait des buts, mais ça en marquait aussi. On s'amusait bien. C'était très beau à voir. Et puis progressivement, j'ai l'impression que en fait, les équipes ont rapidement pris la mesure du jeu Sarri, du logiciel Sarri. C'est-à-dire, c'est Jorginho qui contrôle tout. Et les équipes se sont dit, si jamais on arrive à casser les trajectoires entre Jorginho et Kanté, Jorginho et Hazard, si on arrive à bien bloquer Jorginho, après on fait ce qu'on veut. Et il n'a pas de plan B. Et malheureusement, dans le jeu, ça se sent. Kanté, Salim disait Kanté n'est pas bon, Jorginho n'est pas bon, Kovacic mauvais comme un cochon, Willian mauvais comme un cochon. Et à un moment donné, pas de vitesse, les défenseurs sont tous pris de vitesse, on a l'impression qu'ils ont tous 5-6 kilos de trop. Mais oui, c'est très bon le cochon, mais bon, c'est mais dans une assiette, pas sur un terrain de foot.
C'est vrai, pardon.
Et donc le problème, et alors dans l'attitude, c'est vrai qu'ils sont complètement à la rue, et là où il fait pour moi une petite erreur, Sarri, c'est de faire ce que Mourinho a fait sur les dernières semaines, ou ce qu'il avait fait déjà à Chelsea, c'est d'arriver en conférence de presse et de sortir la sulfateuse. Je pense qu'il n'y a pas pire pour se mettre le vestiaire à dos. Et attention à la situation, il y a des situations contractuelles dans le vestiaire de Chelsea qui font en sorte que beaucoup de joueurs pourraient s'en aller, notamment Eden Hazard. S'il commence à arriver et à tancer tout le monde comme ça, il va se mettre le club à dos.
Après, évidemment, nous, on ne le sait pas, puisque quand il arrive comme ça en conférence de presse, il faut rappeler comment ça se passe, il passe d'abord par la case vestiaire et ensuite arrive en conférence de presse. Est-ce que déjà, il a sorti cette sulfateuse avant, dans le vestiaire, avant d'arriver en conférence de presse?
Oui, et donc tu te doutes que oui.
Mais c'est ça.
Il n'a pas peur.
Donc, en soi, il l'a déjà fait devant les joueurs. Après, est-ce qu'il doit le faire devant les journalistes?
Il a dit un truc terrible. Il dit, les joueurs sont pas motivés. Si vous arrivez
pas. C'était les autres qui étaient déterminés, pas les miens.
Si vous arrivez pas à déterminer et à motiver des joueurs de Chelsea face à Arsenal, faut arrêter le football. Ouais. Faut arrêter le football. Là, c'est pas possible. C'est à l'entraîneur de fédérer un message au quotidien qui transcende les joueurs. Aujourd'hui, tu sais que City Liverpool, c'est loin devant. Que Tottenham, même s'ils ont beaucoup de blessés, ils sont encore réguliers. Que Manchester United est sur une super dynamique. Donc, ta place, t'es Chelsea, ta place dans le Big Four. Donc, en Ligue des Champions.
Ils sont sur les talons.
Elle n'est pas assurée. C'est là que ton message doit être très fort et transcender tes joueurs parce que t'arrives dans les confrontations directes avec les mecs qui vont marcher sur ta place. S'il n'arrive pas à le faire, c'est très préoccupant.
Marc. Le problème, encore une fois, c'est que le message que tu peux faire passer, si les joueurs n'ont pas envie d'adhérer, et là, pour moi, il y a une cassure énorme quand il est capable de sortir ce genre de choses en conf de presse, c'est que ses joueurs ne veulent plus adhérer. Vous parlez du Jorginho mais Jorginho, c'est quand même, elle a été recrutée par lui, c'est lui qui a changé le système de jeu, c'est lui qui met tout en place. Donc les joueurs, ils comprennent bien quand ça fonctionne bien, mais dès qu'il y a un accro, dès que les équipes en face s'adaptent, je pense que c'est quelqu'un qui, Maurizio Sarri, il faut l'aimer profondément parce que je pense qu'il peut te donner beaucoup d'amour comme entraîneur. C'est l'entraîneur que j'aurais aimé avoir, moi. Vraiment. Mais en contrario, il faut vraiment que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes pas, je pense que tu peux vite dégoupiller. Mais on se rappelle, en Italie, des Insigne, des Koulibaly, beaucoup de joueurs aujourd'hui disent, il est plus là, ce coach. Et pourtant, il leur parlait mal. Hein. Croyez-moi, là, ce qu'il a fait là, il parlait autrement.
Il mesure
beaucoup
pas.
Plus mal. Non, mais il mesure pas. Mais c'est-à-dire qu'il vous donne tellement d'amour. Oui. Il est tellement. Alors, je dirais pas généreux. Que c'est comme Bielsa, mais c'est quelqu'un qui vit que pour ça. Il est tout le temps présent. Et le... si vous avez des joueurs qui veulent lâcher un dixième de seconde, il vous laissera pas lâcher un dixième de seconde. Et lui, il ne supporte pas ça. Quand il vient, qu'il parle comme ça, il a dû passer avant. Il a dû les avoiner à tous, la sulfateuse. Il a dû leur dire la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le football moderne, on peut pas dire à un joueur, tu es nul. À l'époque, on pouvait le dire. On pouvait entendre. Oui, je suis nul, j'ai pas été bon. Mais aujourd'hui, certains joueurs qui ont un melon comme ça, que la tête elle est comme ça, ils s'envolent, ils m'aiment pas. Mais on peut plus. Non, mais c'est terrible, c'est que vous pouvez le faire si le joueur vous aime, mais s'il vous aime pas, mais vous perdez votre groupe. Et on voit ce qui s'est passé à Chelsea. Et Salim l'a dit, la plupart des joueurs, qu'est-ce qui va se passer pour leur avenir? Ben, ils vont mettre sûrement les voiles. Et c'est dommage parce que c'est pour moi un coach très important, mais avec des méthodes qui sont pas évidentes.
Alors, il y a un joueur qui aime sûrement Maurizio Sarri et qui peut-être en sentait l'absence. C'est Gonzalo Higuaín qui devrait signer ses prochaines heures. Rappelons-le, il était avec lui à Naples. Il est passé par la Juve, puis le Milan AC. Et apparemment, il arriverait. Est-ce que lui serait une solution peut-être pour fédérer tout le monde? Salim, vous le voyez comme ça?
Ouais, tout ça, le monde sait pas,
mais sur le terrain derrière,
mais en tout cas pour être enfin, en tout cas, ce numéro 9 tant attendu, voilà, par Maurizio Sarri. Alors on le rappelle, il a un 9 à la base, Olivier Giroud, sauf qu'il ne veut pas l'utiliser du tout. Morata est en partance pour l'Atletico, c'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être. Donc aujourd'hui, vous avez Eden Hazard qui est utilisé par défaut, ce ne sera pas le cas. Donc Higuaín, Hazard, on a envie de dire pourquoi pas une relation qui peut se trouver effectivement entre Hazard qui pourrait trouver en profondeur Gonzalo Higuaín. À la limite, j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, faudra se poser ensuite la question de l'avenir d'Olivier Giroud à un moment donné, parce que vous êtes là, vous êtes tout seul, vous attendez en numéro 9 et on vous utilise quand même pas. Mais Higuaín, Sarri le connaît très bien, donc j'ai envie de dire, ça peut partir sur une bonne base potentiellement.
Je suis d'accord avec toi sur la relation avec Sarri, sur l'état d'esprit de, parce que Higuaín c'est un guerrier, il a plein de défauts, mais tout ce qu'on veut. Oh oui. Mais les exigences du football anglais ne sont pas les exigences du football italien. Ce qu'il fait en Angleterre, en Italie, avec 4 ou 5 kilos de trop dans des équipes qui portent le ballon et qui lui donnent l'opportunité de jouer exclusivement dans les 25 derniers mètres, il le fera pas en Angleterre. Va falloir qu'il s'affûte, va falloir qu'il court. Il a plus de 30 ans, Higuaín.
Et puis t'as des
défenseurs, le défi physique, ils répondent tous les jours. Il faut trouver une autre combine que de leur rentrer dedans. Et moi, je suis sur le fait que Chelsea a besoin d'un neuf pour remettre Hazard sur un côté, je veux bien. Sur le profil d'Higuaín, je suis très sceptique.
Pour terminer, Salim, en quelques mots, les Reds qui continuent leur marche triomphale, un match épique.
Tout pour eux.
Salah, doublé, Firmino, Mané qui met le but de la victoire. C'est comme d'habitude, on va dire, avec les Reds.
Oui, sauf un grain de folie. En face, ils en ont pris 3. Ça, c'était pas prévu, en revanche, face à Palace. D'ailleurs, Palace, c'est presque un juge de paix, hein. Palace, on a marqué 3 à City, 3 à Liverpool, mais City perd face à Palace, Liverpool gagne face à Palace. Et surtout, sur les 4 buts qui ont été marqués, vous avez 3, et même le 4e, celui de Mané, on sait pas trop si la balle sort en touche ou pas. Les 4 sont pleins de réussite. C'est affolant, ça là, quand il tend son pied gauche. Le premier, on se dit, le temps s'en va dans le temps, et au final, ça va dans le but. Speroni qui se fait un CSC quasiment. Enfin, tout est allé dans le sens,
c'est la chance de des futurs champions.
C'est la chance de l'équipe qui va aller loin.
Ça y ressemble.
En tout cas, ils sont toujours devant et ils ont toujours 4 points d'avance. À noter que City a gagné aussi et Tottenham, hein, on n'a pas le temps d'en parler, mais ils n'ont pas été décrochés par miracle, ils ont réussi eux aussi à se maintenir dans le trio de tête. Une petite place pour les filles. La France a battu les États-Unis et avec facilité 3-1, un beau score. L'équipe de France féminine qui se mesurait donc ce week-end aux Américaines en match amical. Toutes sont tournées vers la Coupe du Monde. Toutes donc disputent théoriquement des matchs amicaux avec un certain entrain. Les tenantes du titre mondial ont été battues. Que faut-il en tirer? Bien, écoutons Amandine Henry.
On a vraiment les pieds sur terre. C'est un match de préparation, c'est bien, mais on sait qu'un match de compétition, c'est vraiment autre chose. En plus, avec l'accumulation des matchs, la pression et tout ça, je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est déjà un bon test d'accompli. Après, on va toujours de là.
Éric Chorin, vous qui étiez au Havre, dans les tribunes, dans des tribunes pleines.
Ouais, c'était plein. 22 000 personnes.
Ouais, c'est ça, 22, ouais.
Troisième influence de l'histoire d'un match de foot féminin en France.
Ouais, alors.
Visiblement, ils aiment là-bas au Havre le foot féminin, puisque c'était déjà dans ce stade qu'il y avait l'une des plus belles. C'est vrai aussi.
Non, mais dès qu'on sort de Paris pour le football féminin, de partout. De partout, on va voir les filles, vraiment.
Et ils auront 7 matchs pendant la Coupe du Monde, si je ne m'abuse. En tout cas.
Un quart, un huitième et un match des États-Unis, justement, au premier tour face à la Suède.
Ouais. Belle prestation pour vous, que cette victoire des Bleus.
Bah, les Françaises ont fait effectivement elles ont fait un beau match. C'est leur 8e victoire consécutive. Elles ont encaissé un but en fin de match, comme ça fut le cas face au Brésil lors de la rencontre précédente. Mais sinon, on était quand même parti pour un 8e match ou pour 8 matchs sans encaisser de but, parce que face au Brésil, comme face aux Américaines, elles auraient pas dû le prendre, ce but à chaque fois dans le temps additionnel. Une défense solide. Il n'y avait pas Grid Jambok Bati, mais là, on est revenu à une défense à 4 face aux Américaines, alors que c'était 3 centrales face aux Brésiliennes. Mais Tunkara, qui joue à l'Atlético Madrid, a rempli son rôle aux côtés de Wendy Renard. Les latérales sont toujours intéressantes. D'habitude, ça passe à gauche avec Amel Majri et Eugénie Le Sommer. Cette fois-ci, c'est passé vraiment beaucoup du côté droit, avec notamment Delphine Cascarino, qui a pu trouver devant Akati Diatou Diani, la Marésienne. C'est toujours un peu compliqué à prononcer. Donc Diani ou Kadi, comme ils disent dans l'équipe. Donc on a vu pas mal de solutions offensives, pas mal de mouvements. Une Delphine Cascarino très percutante. Le but de Marie-Antoinette Katoto à la fin pour la soulager, elle. Et après une semaine un petit peu difficile avec sa coach Corinne Diacre.
Pour montrer à sa coach de quoi elle est capable.
Oui, c'est la Sarri de l'équipe de France. Non, prestation solide, mais une équipe des États-Unis qu'on n'a pas vraiment vue, qui a été totalement contrôlée. Et il y a des raisons à cela aussi. Elle n'est peut-être pas vraiment tout à fait dans le rythme.
La saison n'a pas repris. Et puis, tu as quand même beaucoup de filles, alors qui seront peut-être dans les 23, mais peut-être pas dans le 11 de départ d'ici quelques mois. Donc, à surveiller. Mais c'est très bien la victoire de l'équipe de France.
Oui, on a beaucoup de réussite aussi du côté de nos Françaises. C'est vrai que le premier, même le second but est un centre. On a beaucoup de réussite. Attention de ne pas se gargariser, parce que là, tout le monde s'enflamme. Les États-Unis, c'est ce qui fait de mieux.
Plutôt bien d'avoir battu les tenantes du titre dans un match amical est un match de préparation.
C'est très important, mais dans chaque tournoi depuis 2011, on a raté les grandes étapes.
Tu as d'autant plus raison qu'on est régulièrement champion du monde des matchs amicaux et des matchs de qualification, et puis que dans les compétitions, à chaque fois, il y a un truc chez les filles. On a à chaque fois le truc. Mais c'est quand même c'est des victoires. Il y a un an, l'équipe de France féminine, elle faisait peur. Il y a un an, elle faisait très très peur. L'Italie, la Suède,
elle était ressortie de l'Euro.
Ah ouais, non, des matchs contre l'Italie, contre la Suède, c'était vraiment n'importe quoi. Donc elle a bien inversé la tendance, Corinne Diacre. Puis il y a quand même, comme chez les garçons, une faculté de formation. On perd des joueuses qui sont cadres, il va les remplacer assez rapidement. Paris et Lyon restent des locomotives pour la sélection. Donc c'est très bien. Mais compétition, il manque toujours le petit truc.
Salim.
Après, Corinne Diacre a malgré tout réintégré certains cadres, justement. En tout cas, les a replacés comme il faut. Alors, on pense à Gaëtan Tinet, qui était déjà là avant, à un moment donné, mais qui était reparti. On ne pensait pas qu'elle allait réintégrer aussi facilement. Ça a été le cas. Elise Buseglia a été parfaitement remise dans ce 11 également. Donc au final, Corinne Diacre arrive à gérer des jeunes, pleine de talent, des anciennes également, donc on a envie de dire presque que la mayonnaise peut potentiellement bien prendre. Après, je me souviens, l'avant Coupe du Monde 2015 qui était au Canada, là encore il y avait eu de très bons résultats. Alors il y avait eu une défaite face aux États-Unis, c'était lors du tournoi de l'Algarve, si ma mémoire est bonne, mais il y a eu d'autres bons résultats, et au final il y a eu cette élimination en quart de finale face à l'Allemagne. Donc ne nous emballons pas, c'est une bonne chose d'avoir battu les États-Unis, forcément, même si Jill Ellis, la coach des States, a beaucoup fait tourner aussi. Donc là encore, faut surtout pas s'emballer, mais prenons les victoires.
Ça n'est jamais que la troisième victoire des Françaises face aux Américaines en 23 confrontations, donc c'est pas si mal que ça, c'est pas le bon moment.
Ça vient après une victoire sur le Brésil, ça vient après une victoire sur l'Allemagne, donc t'arrives quand même à accrocher à ton tableau de chasse des grosses équipes. Pour le moral, ne serait-ce que pour le moral, c'est bien.
Visiblement, c'était le cas chez les joueuses, toutes étaient assez satisfaites, effectivement, collectivement, de leur performance, même si elles sont toutes très prudentes, notamment les anciennes.
Ah, mais encore une fois, avec tout ce qui s'est passé par le passé avant les grandes compétitions,
elles connaissent.
Katoto, faut qu'elle joue tout le temps, elle est très forte.
Et c'est ce que pense Wendy Renard également.
Peut-être changer la gardienne de l'équipe de France à un moment donné.
Ouais, mais il n'y en a pas vraiment d'autres.
C'est ce qu'on verra dans les prochains matchs. Il y a d'autres matchs amicaux de ces filles. Merci beaucoup. Merci à Julien Maguaro qui était à la réalisation. Merci à Louis Lafargue et à demain.